Ouais, dis donc, Mermet, qu'est-ce que tu nous fais, là? Avec tous les smicards, les relégués, les... Tu veux qu'on pleure sur des gens qui gagnent 4000 euros au chômage? Eh, les gars, c'est quoi France Inter, maintenant? Sarkozyste? Devilpiniste? Bon, faut arrêter, les mecs, là. Sinon, moi, je mets un coup de marteau dans la radio, quoi. Eh, c'est plus bon, là. Plus bon du tout, quoi.
Véronique de Vic-Soutil. 12 septembre, bonjour. Je téléphone au sujet de l'émission que je viens d'entendre, itinéraire d'un cadre jetable. Les premières paroles de Mermet m'ont donné envie de lire ce livre. Je trouvais beau tous ces mots. En entendant Marie-Annick, bon, c'est une femme ordinaire, 4 enfants, mari cadre, fille de médecin spécialiste, elle a été gâtée matériellement, et donc elle ne doit pas trop se poser de question sur les pauvres cons qui sont au chômage. Mais quand son mari, intelligemment interviewé par cette jeune femme de l'émission, se met à raconter son histoire, bon, je résume en deux mots, mon patron m'a demandé de virer des employés, puis moi j'étais sûre qu'il ne pourrait pas retrouver un emploi. Sans pitié, il l'a fait, bah oui, j'ai exécuté les ordres. Et voilà pourquoi ça marche. Il y a toujours de bons petits soldats pour exécuter les ordres des pourris. Et quand ça leur arrive d'être éliminés à leur tour, moi, ils ont leur bête, ils veulent qu'on ait pitié d'eux. Et je suis en colère. C'est pour ça que j'appelle. D'habitude, des gens peuvent me faire rire dans cette émission, où je peux être très triste. Aujourd'hui, je suis en colère. Et je remercie Mermet de me mettre en colère. C'est très intelligent. Et conclusion, j'ai plus envie d'acheter leur livre. Je préfère donner de l'argent à un musicien qui va me faire rêver dans le métro ou ailleurs quand j'ai le malheur d'aller à Paris. Voilà. J'aimerais bien qu'ils manifestent un jour ou l'autre ce couple. Au revoir.
Oui, ce que je voulais dire à Daniel Mermet, là, je viens d'écouter l'émission, c'est que, honnêtement, il n'arrivera pas à nous tirer les larmes de son petit couple breton. Bon, c'est pas très crédible. Ce type-là, quand même, il s'est comporté toute sa vie, et il le dit quasiment, comme un capot. Il n'a pas hésité à virer 20 personnes par-ci, 5 personnes par-là. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Honnêtement, j'ai été cadre aussi, et beaucoup plus important que lui, j'avais des centaines de personnes sous mes ordres. Quand on m'a proposé de faire un plan asocial, hein, parce qu'on appelle ça social, mais c'est plutôt totalement asocial, j'ai dit non. J'ai été viré, je travaille maintenant comme indépendant, mais je me suis battu, voilà. Et moi, personnellement, j'ai mon honneur pour moi.
Quand ils ont commencé par licencier les ouvriers, je n'ai rien dit, car les nouvelles machines ne se mettaient pas en grève. Quand ils ont poursuivi avec les techniciens, ça ne me faisait rien, car tous les brevets étaient déposés. Quand les cadres se sont retrouvés au chômage, on les a vite remplacés par des stagiaires sous-payés. Quand ils ont délocalisé l'usine, je n'ai rien rétorqué, car les actionnaires me demandaient de plus en plus de profits. Aujourd'hui, j'ai fait faillite, car plus personne n'avait l'argent pour acheter mes produits. Mes chers, très chers ordinateurs.
Petite réaction sur l'émission d'hier. Trouver un emploi, ouais, mais quel genre d'emploi? Gagner un salaire, mais à quel prix? Même si le chômage est difficile à vivre, travailler n'est pas nécessairement plus réjouissant. Disons qu'en sortant d'une misère financière, on ne sort pas toujours de la misère symbolique. Le chômage crée l'exclusion, mais le travail... aujourd'hui, créer l'aliénation, lutter contre le chômage, c'est une noble cause, mais elle reste vaine si on ne transforme pas la notion moderne du travail. Dans les deux cas, on ne peut ne jamais avoir à s'épanouir. Et l'épanouissement vaut tous les salaires du monde. C'était Nico, bye bye.
Bonjour les auditeurs de France Inter et tous ceux qui écoutent là-bas si j'y suis. Je voulais témoigner à propos du reportage de hier concernant ce pauvre homme qui gagne si peu sa vie. Je trouve assez indécent de parler des gens qui gagnent 1700 euros par mois, que 1700 euros par mois. comment font les gens qui gagnent le SMIG? Pour ma part, je suis obligée de travailler à plein temps et le week-end pour payer les études de mes enfants, j'en ai 4. Je n'ai jamais gagné 1 700 €, ni même 2 500, ni même 5 000. Alors je comprends pas pourquoi on parle de ça. Je préfère parler des gens de chez Nestlé. Je trouve ça plus normal. Je ne trouve pas. Je dis pas que c'est bien qu'ils soient licenciés sans arrêt, mais je trouve quand même qu'ils pleurent la bouche pleine. Je vous embrasse. Au revoir.
Les amis de la Bastille, je trouve que c'est une idée qui est vraiment excellente. Je laisse mon adresse email et tous ceux qui veulent me contacter peuvent le faire pour qu'on puisse se trouver un café ici. On essaiera d'éviter Starbucks, mais on se trouvera un petit coin pour pouvoir papoter. Écoutez, contactez-moi. Mon adresse email ici, c'est patrick.vilain, V-I-L-I-N, pardon, qu'un seul L, @gmail.com. Et on essaiera de se trouver un petit coin sympa pour discuter de tout et voir un petit peu comment on peut faire avancer le schmilblick. Voilà, à plus. Ciao. Salut Daniel, c'est Patrick de San Francisco. Écoute, j'appelle par rapport à ton idée de la rentrée.
Et voilà, et pourquoi pas un bistrot, un repère de la base où j'y suis, à San Francisco. C'est très très chic, c'est très très loin et ça peut être très très sympa. On reçoit beaucoup de propositions de votre part, amis auditeurs de la base où j'y suis, des quatre coins de l'Hexagone, comme disait Guy Lux, pour choisir un bistrot, un repère de la base où j'y suis, où vous pourrez vous retrouver une fois la semaine à une heure que vous décidez, dans un endroit que vous décidez. Vous nous faites des propositions sur le répondeur de la base si j'y suis ou sur le mail de la base si j'y suis. Et puis, ensuite, nous, on vous indiquera les lieux, par exemple, le café de la plage à Brest, etc. Le Woodstock à Limoges, enfin, tous ces cafés seront indiqués dans sur le mail de là-bas si j'y suis. Aujourd'hui, on continue ce reportage qui vous a passionné. Vous avez vu les réactions suite au reportage hier de Olivia Gesbert sur cette famille et ce petit livre de Marie-Annick Terruin, Itinéraire d'un cadre jetable. C'est l'histoire de son, vous avez compris, c'est l'histoire de son mari, cadre, jeté. Et évidemment, il y a les auditeurs qui ont dit quoi, vous essayez de nous faire pleurer, tirer des larmes sur des gens qui sont pas si malheureux que ça, comme dit une auditrice qui pleure la bouche pleine. Mais nous, on n'est pas là pour vous faire pleurer, on est là pour montrer aux uns comment vivent les autres et comment vivent mal certaines catégories sociales français. Voilà. Et là, c'est les cadres qui sont de plus en plus à leur tour touchés par le chômage. Il y a un film formidable que je vous recommande si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est le coup près de Costa Gavras, et on aura des extraits de ce film au cours de l'émission d'aujourd'hui, donc sur cette histoire de cadre jetable. On va entendre un message et je m'adresse à l'auditrice qui nous l'a envoyé, si elle veut bien avoir la gentillesse de nous appeler pour nous donner ses coordonnées. Elle nous intéresse beaucoup. Le répondeur, vous le connaissez, c'est le 01 56 40 37 37, ce message, et puis l'itinéraire du cadre jetable.
J'appelle au sujet de la baisse du chômage. Je travaille à la NPE, vous comprendrez pourquoi je ne donne pas mon prénom. Je sais pourquoi le chômage baisse, parce que quand on envoie des convocations à des jeunes qui ne touchent pas un rond d'ACEDIC et qu'on envoie ces convocs en juillet et en août, à des jeunes qui savent très bien qu'on n'a aucune chance de leur filer la queue du quart d'un boulot correct, évidemment les jeunes ne se déplacent pas et évidemment c'est très facile de les radier. Il faut savoir que là, on a une pression de plus en plus forte sur le personnel de la NPE pour procéder à des radiations pour recherche d'emploi insuffisante. On le fait pas tous, heureusement, mais la pression devient insupportable. Le problème, c'est que nous, conseillers à NPE, on fera rien sans vous. Donc, les chômeurs, si vous vous bougez pas, nous, on peut rien faire. On en est réduit, nous, à susciter des manifs qui nous empêcheraient, qui parviendraient à nous empêcher de mener à bien les actions dégueulasses qu'on nous demande de faire. Je sais pas si vous réalisez le truc. Voilà, donc merci de venir nous prêter main forte, parce que on n'a pas spécialement envie de venir grossir les rangs des chômeurs, puisqu'en général on est comme vous, on est passé par là. Et maintenant qu'on a un petit salaire un tout petit peu décent, on essaye de le garder, mais je vous assure que de notre côté à nous, c'est pas très simple. La schizophrénie règne. Allez, alors à bientôt, dans les manifs ou ailleurs. Ciao.
Bon, vu qu'il y a un piano ce soir, je ne résiste pas au plaisir de vous jouer un grand succès, quelque chose qui m'a beaucoup influencé dans les quelques années. Succès. Un tube. Vous reconnaissez ? Un tube.
C'est parfait.
Bonjour. Vous êtes en communication avec le répondeur des acédiques.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Olivia Gesbert. Là-bas, si j'y suis, itinéraire d'un cadre jetable.
Flight number 2, arriving from New York.
Mais en me volant mon travail, on m'a pris ma vie. Ma vie. Et au risque de gâcher celle de toute ma famille. Alors d'accord, le travail n'est pas tout. Et sans travail, je suis quoi? Hein? Et je fais comment?
Avant, avec les collègues, on était comme une tribu, travaillant ensemble, comptant les uns sur les autres. Et une fois licenciés, c'est fini la tribu. On est devenus des ennemis.
Des ennemis?
Pire, des concurrents. Chacun pour soi et pas de Dieu pour tous.
Et que signifie pour vous, monsieur Davers, chacun pour soi?
Ça signifie que je dois battre la concurrence et que pour ça, je ne peux compter sur personne à part moi.
Mais t'es pas ça, Moreno. Tu m'as moins. Tu le sais.
T'as un boulot pour moi?
Bah, je te fais le journal et le pain.
Oui.
Alors Pascal, ce matin, vous avez reçu une lettre pas très positive.
Carrément négative, dans le sens que le client n'a pas souhaité, donc le recruteur, le décisionnaire n'a pas souhaité aller plus loin dans le processus de recrutement. Il cherchait un véritable chef d'entreprise, puisque c'était une direction de filiale, de sous-traitance, de la mécanique. On attend plus souvent des choses négatives, puisque si ça avait été positif, j'aurais eu un appel téléphonique. Alors, donc, on va essayer de savoir, d'avoir en retour, de faire un débriefing avec le consultant pour connaître les raisons pour ma gouverne, essayer de s'améliorer. Trois baguettes, je vais prendre une bannette.
Alors, 2,35 euros,
c'est bon. 35.
Oui.
Ah, ça a augmenté?
Non. Non, non, deux baguettes et une bannette.
Ah ben oui, c'est la bannette.
Oui.
Ah oui, oui, oui.
Voilà.
Merci.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au
revoir. On va passer ce coup de fil.
Oui.
Ça sent bon, t'as préparé quoi?
Poulet, légumes. Légumes surgelés.
On arrive, on a un coup de fil. On passe là ou dans le bureau?
Dans le bureau, parce que j'ai mis une note.
À la télévision, le cap des 1 million de chômeurs ne passe pas non plus inaperçu. Une des émissions phares de l'époque, Les Dossiers de l'écran, consacre en janvier 1976 une soirée spéciale au chômage.
Bon, alors je me mets à mon bureau. Je prends
Mon cahier. Qui n'est pas mon premier cahier, malheureusement, mais qui est mon deuxième cahier.
Les dossiers de l'écran font découvrir à une large partie de la France encore préservée du chômage le quotidien d'un cadre supérieur à la recherche d'un emploi.
Oui, vous me disiez que ça n'était pas le premier cahier. Qu'est-ce que vous faites sur ce cahier, avec ce cahier?
Écoutez, sur ce cahier, c'est bien simple. Je découpe les annonces auxquelles j'écris et je les colle avec les réponses qui me sont données.
Ça représente des réponses à combien d'annonces?
Écoutez, pour l'instant, ça correspond à 268 courriers, donc 268 curriculum vitae que j'ai adressés. J'ai eu environ 260 réponses, 250 réponses. Dans...
Combien?
240 négatives. Pour quelle raison? Ça, je n'en sais absolument rien.
240 négatives sur 260.
Négatives, oui. On ne dit pas. On dit, monsieur, même dans les 48 heures qui suivent la réception de la lettre, on dit, monsieur, votre profil ne correspond pas.
Même si le chômage des cadres est encore quantité négligeable par rapport à celui des ouvriers, ce genre de document est révélateur de l'inquiétude ambiante. Le lendemain de l'émission, l'éditorialiste du Monde, Claude Sarraute, titrera son billet « La plaie béante du chômage ».
Du café.
La plaie béante du chômage, en 1976, c'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on s'étonnait de voir un cadre au chômage. Mais ça, c'était impensable. Les 30 glorieuses ont été les années du cadre. Tout le monde aspirait à devenir un cadre, avoir une chemise en nylon, avoir une cravate roulée dans une Versailles ou dans une Renault 16. Mais un cadre au chômage, c'était impensable. Et voilà qu'en 1976 apparaît cette figure qui va hanter désormais notre monde et accompagner la révolution conservatrice néolibérale, la révolution régressive néolibérale, ce fameux grand bond en arrière. Et aujourd'hui, ben voilà, le même chômeur, 30 ans après, va lui aussi, alors c'est plus sur un cahier qu'il note les refus, mais c'est sur son ordinateur peut-être, mais c'est la même situation, sauf que à l'époque, on disait, ben, y en a peut-être quelques-uns qui sont en trop quand même. Et puis après, ça a été, certains sont en trop quand même. Et puis après, ça a été, beaucoup sont en trop. Et maintenant, c'est tout le monde qui est en trop. Nous sommes tous en trop. Voilà, on s'habitue à ça. Il va falloir s'habituer à ça. Mais ça y est, c'est fait. Nous nous considérons tous comme en trop. Il y a un magnifique dessin de Sempé. C'est un petit bonhomme qui en rencontre un autre dans un paysage à la Sempé et qui dit, moi... Dans la vie, ce dont j'ai toujours rêvé, c'est que quelqu'un traverse la rue et vienne me dire « Sans vous, il aurait manqué quelque chose à l'histoire de l'humanité. » Et bien aujourd'hui, sans nous, on a l'impression que cette humanité se porterait mieux, comme s'il pouvait y avoir une inhumanisation de cette sorte, c'est-à-dire une humanité sans les humains. Nous, peu à peu, en 30 ans, nous nous sommes habitués à cela, à être en trop. Et la situation de cette famille, de Pascal, le cadre supérieur jeté... Bon, vous avez vu les réactions des auditeurs. Ben oui, mais ils sont gâtés. Il a encore 2500 euros d'assédic par mois. Et puis elle a 1500 euros par mois. Ça fait 4000 euros par mois. De quoi viennent-ils se plaindre? Ils pleurent la bouche pleine. C'est vrai, bien sûr. Sauf que, bon, les assédics que perçoit actuellement Pascal, c'est encore pour 2 ans. Et au bout, voilà, il faudra... Et puis il est vieux, il a 55 ans, Pascal. Donc ça, c'est un vieillard pour le marché du travail. Et c'est cette angoisse, cette peur, la vraie peur des Français. Un sondage publié dans le Figaro en avril dernier indiquait que le chômage inquiète plus que le nucléaire.
en France. C'est la première préoccupation. Et pourtant, on voit comment, ben, il faut regarder ailleurs. C'est tellement, c'est embêtant, cette émission qu'on fait aujourd'hui. Là, c'est encore sur, oui, mais quand est-ce qu'on commence à regarder cette question, vraiment en face, cette peur en face, cette peur dans la glace? C'est ce que nous essayons de faire à nouveau aujourd'hui jusqu'à 18h dans la basse, si j'y suis.
Donc voilà la réponse négative. Bien sûr, mes compétences et mon expérience ne sont pas remises en cause dedans, phrase classique. Et un petit mot gentil du consultant, il a ajouté de sa main propre « à bientôt », point d'exclamation. Bon, maintenant, je vais tenter de le joindre.
Bonjour.
Oui, bonjour madame Pascal Auville. Quel livre est-il accessible?
Oui,
merci.
Oui,
Pascal Auville. Ben, ça va. J'ai donc reçu le petit courrier. Pour résumer, bien, ils ont préféré l'option un plus jeune, plus frais en technique, disons.
Il y a d'autres éléments qui rentrent très bien.
Ah oui, sûrement.
Directement, mais de façon importante dans le raisonnement. Ça serait peut-être pas très sympa de mettre quelqu'un de trop fort gabarit dans les pattes d'air, ou est-ce que là, un moment où il...
Ouais, c'est sûrement, oui.
Deux, bien, bon, il s'est structuré, et un nouveau DAF au niveau du groupe Metalia.
Oui.
Et les outils décisionnels sont pas encore tous en place. Un jeune est plus malléable qu'un ancien.
Mmh, mmh.
Je pense que l'option qui a été choisie est une option qui ne risque pas de heurter.
D'accord.
Et qu'on peut voir monter progressivement puissance.
Oui, oui.
Alors donc, pour ce qui vous concerne, c'est, la question ne s'est absolument pas posée.
D'accord.
Ou plutôt, j'ai posé la question.
Oui.
Parce que je devais poser la question. Oui. Et en fait, la réponse a été, oui, merci d'avoir posé la question, mais c'est pas le débat.
Oui.
D'ailleurs, j'ai juste un commentaire à faire, mais qui est off, totalement off, et c'est totalement joueux. Vous pouvez très bien y aller d'une petite lettre de château ou un petit mot ou un petit mot de courtoisie.
D'accord.
Sur le thème, je serais très content de poursuivre avec vous.
Ben, je vous remercie de cette indication, hein, et puis de votre franchise là, sur tous les éléments. Donc ça m'éclaire et surtout, ben, n'hésitez pas à me contacter si vous avez quelque chose. On se connaît un peu mieux hein, maintenant. Vous me connaissez mieux. Vous voyez mes envies et mes ambitions. Et puis, vraiment, mes motivations et mes envies de diriger une petite entreprise. Hein, enfin, un profil comme ça. Bon appétit. Au revoir. Ils ont légèrement dégradé, je dirais, le contenu du profil en faveur de risque de heurts avec l'ancien directeur.
C'est ça, il s'agit d'un poste de directeur d'usine, c'est celui-là, de DG opérationnel de cette société. Vous nourrissez une forte sensibilité technique, apporter une solution ingénieuse à l'étude d'une pièce, coter une offre, optimiser un mode opératoire est indispensable pour vous faire reconnaître.
Ah, mais bon, un bon débriefing de la part du consultant, en tous les cas.
Ça y est, on a tiré l'affaire au clair.
Alors, c'est quoi?
Il est trop jeune.
Pascal?
Oui.
Ah, c'est ça, je me sens un peu. Et c'est vrai, il fait pas son âge. Hein. C'est ça qui est embêtant.
Vous êtes jeune. Vous êtes moderne. Vous êtes efficace. Vous êtes pragmatique, vous êtes autonome, vous êtes performant, vous êtes responsable, c'est bien, continuez.
Vous gardez le sens du scandale, vous allez au bureau en sandales, vous écornez vous-même votre image, vous êtes encore très rock'n'roll pour votre âge. Vous êtes jeune, vous êtes moderne, c'est bien, continuez. Vous êtes oh. Tellement vous êtes hors, oh, vraiment vous êtes hors, oh, infiniment vous êtes hors, oh, absolument vous êtes hors, oh, furieux.
sérieusement, vous êtes... Ah, 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 mais alors, vous êtes, vous pensez positif, vous chantez positif, vous parlez positif, vous respirez positif, quand on vous dit positif, vous répondez positif, ben tout cela m'a l'air plutôt globalement positif, c'est bien. Continuez, bercé par cette barbarie douce, vous évacuez les questions, car il faut continuer la course. Et renouflez dans votre salon les mille et une cyberbreloques qui entretiennent votre hypnose et votre nostalgie des époques où il se passait quelque chose. C'est bien. Continuez.
Personnellement, on s'était dit avec Marie-Annick, il n'y a pas de raison d'avoir honte, puisque c'est pas forcément, c'est pas une maladie. C'est au contraire l'effet, sans doute, d'un dysfonctionnement de la société. A priori, non, il n'y a aucune honte à être au chômage. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai que tous les propos sont orientés pour valoriser le travail, ça va, mais en même temps, et simultanément, pour pointer du doigt sur ceux qui n'ont pas de travail, tout est fait pour culpabiliser le chômeur. Et ceci, qu'ils aient 30 ans, 35 ans, parce que la répartition des âges dans une association comme celle à laquelle je participe, je contribue, on a vraiment tous les âges également répartis.
C'est quoi cette association ?
C'est une association donc de cadres en recherche d'emploi que certains préféreraient appeler en transition professionnelle, dont le principal but est de parler avec des gens qui vivent la même chose.
Il y a aussi une psychothérapie qui a été entamée à un moment ?
Oui, on s'est dit, l'âge pose un grave problème. Sans réponse pendant 6 mois, le moral des entreprises à zéro, de tout le monde. De toute façon, en France, on a toujours le moral très, très bas, donc il était temps de l'entretenir.
Le vôtre, pas celui des entreprises.
Le mien. Ça permet surtout de garder, je dirais, la tête froide, quoi. De pas être emporté par l'émotion, disons ça comme ça.
C'est un peu vos références que je vois, par exemple, dans votre la petite bibliothèque qui est là. Je vois les nouveaux maîtres du monde de Jean Ziegler, le Suisse.
Oui.
Ziegler, je vois qu'est-ce qu'il y a le.
Oh, c'est un grand thème, ça. C'est toute la partie psychopathie, si j'ose dire, de mon étape chez le patron psychopathe, là, dans l'entreprise psychopathe.
J'ai un patron psychopathe, c'est celui-là que vous me montrez.
C'est très, très bien fait.
Le harcèlement psychologique. Alors, donc, en dessous, c'est les grands traités
ça, c'est plutôt la macroéconomie, les phénomènes de mondialisation. Comprendre effectivement ce qui se passe. Et ça, c'est...
Alors, ça va de Alain Perfit, quand la Chine s'éveillera, au piège de la mondialisation de Martin et Schumann, à Viviane Forrester, à André Comte-Sponville, à Jean Ziegler, on le citait, à René Maury, à Alain Minc. Il y a tout, là, vous partagez tous les courants. Vous avez trouvé quel était votre préféré ?
Globalement, et en termes de critique, c'est sûrement Albert Jacquard.
De qui vous vous sentez le plus proche ?
Ah oui. Ah oui.
Et on referme l'étagère.
Je devenais agressif et asocial. Marlène, elle, avait trouvé de petits boulots. Ça rapportait des clous. Moi, je n'ai jamais envisagé autre chose que la chimie du papier. Je m'étais assez fait chier pour devenir l'un des meilleurs. Avant, nous avions 2 voitures et aucun rapport avec ce voisin aux mains moites. Si je tuais 1000 actionnaires, ça ne me rapporterait rien. Si je tuais 10 PDG ayant renvoyé 1000 employés chacun, qu'est-ce que j'en tirerais ? Rien. Ce sont eux mes ennemis, mais ils ne sont pas mon problème. Ces 5 CV étaient mon problème.
Voilà, dans le film de Costa-Gavras, le couperet, le personnage génialement interprété d'ailleurs, tient ce raisonnement. C'est une fiction sociale, ce film, simplement. Le héros, le personnage principal, ne s'en prend pas à ses véritables ennemis. C'est pas qu'il se trompe d'ennemis, c'est que la stratégie qui le conduit, fait qu'il va appliquer, il va devenir la métaphore de la guerre de tous contre tous. C'était une métaphore, et dans le film, ça devient une réalité, et ça le devient aussi dans nos vies. Alors, parlant comme je le fais, ils se disent « Ah mais, vous simplifiez trop, c'est naïf, c'est excessif, etc. » Mais dans sa chanson, là, qu'on vient d'entendre, cette chanson très courte, d'un gars qui s'appelle Yannick Le Nagar, jamais, c'est Yann Chouquet qui a trouvé ce disque. Il dit bercé par cette barbarie douce, hein? Bercé par cette barbarie douce. Il se pourrait bien qu'on soit en train de se laisser bercer par cette barbarie, par ces kilomètres, par ces jolies choses et tout, et que en fait, de temps à autre, il faut aller voir dessous, comme on essaye de le faire là, et comme nous le permet de faire cette famille avec beaucoup de confiance. À la suite, je le rappelle, de la publication de ce petit livre de l'épouse de Pascal, Marie-Annick Auville, un petit livre qui s'intitule « L'itinéraire d'un cadre jetable ». C'est leur propre histoire, c'est l'histoire de cette famille aux éditions Amalthée. Alors, on a parlé, c'est drôle aussi ça, hein, Pascal parle d'Albert Jacquard. Albert Jacquard, bien connu, Albert Jacquard, mais quelle est l'une des idées fortes que le père Albert Jacquard essaye d'enfoncer depuis des années à travers ses écrits, ses interventions diverses et variées? C'est de lutter contre le darwinisme social, c'est de lutter contre cette compétition entre les winners et les losers, de plus en plus acharnée. Il a vu venir, il a vu monter cette, et puis il n'est pas le seul, lui il l'a vu, d'autres l'ont vécu. Et c'est ce qui est curieux dans cette idéologie néolibérale, dans cette utopie néolibérale, c'est que on s'en vante pas. C'est-à-dire que dans d'autres des grands moments du triomphe du catholicisme, par exemple, ou du triomphe du communisme, on s'en vantait, on exaltait les vertus de ce qu'on croyait être juste, être l'avenir radieux, la rédemption, le paradis, qu'il soit sur Terre, dans le cas du communisme, ou plus tard, dans le cas du catholicisme. Aujourd'hui, cette utopie qu'est le nouveau libéralisme, le néolibéralisme, ne s'affiche pas comme tel, ne s'affiche pas comme une idéologie, ne s'affiche pas comme une utopie. On voit pas de grandes banderoles, de grands panneaux nous disant « Vive la dictature de l'actionnariat », par exemple. On voit pas encore, pour l'instant, sur les édifices publics, liberté, inégalité, compétitivité. C'est pas encore. Mais c'est dans toutes les têtes, c'est dans tous les esprits, c'est dans le non-dit. D'une époque qui a effectivement bien du mal à se regarder dans le miroir.
Je sais pas comment dire. En s'envoyant en l'air, il faut avoir un peu. Il faut pas avoir de soucis. Or, ce chômage, il te taraude en permanence quelque part quand même. Quoi. Tu te sens pas le droit d'être libre. Hein. Je crois que c'est ça le truc. Et alors, évidemment, moi, en tant que femme, je me sens. Je sais pas comment dire. Ouais, ne pas exister vraiment, mais enfin, je comprends aussi. Enfin, c'est très compliqué, ouais. Je ne suis pas, en tant que personne sexuée, quelqu'un d'important, mais par contre, en tant que compagne, on est vachement complice, on est vachement tendre, mais bon, après, voilà, il se passe pas grand-chose, mais ça n'enlève rien à l'amour, mais c'est vrai que j'aurais jamais pensé, et puis bon, voilà, c'est comme ça. Mais non, on est vachement complémentaires. Bon, on traverse une crise, on la gère, et puis l'essentiel, on l'a.
Et un homme au chômage, il perd aussi sa place dans le couple, quelque part?
Pascal, je crois pas. Enfin, du moins, je pense que j'essaye de faire attention, mais je lui demande rien au niveau des tâches ménagères, parce que je veux justement pas le ravaler au rang de mec qui est à la maison. Ça, c'est hors de question. Donc, je lui demande rien. Donc, comme c'est un mec, il fait pas grand-chose. Mais il faut absolument qu'il tienne, parce qu'il a un vrai boulot à temps plein, c'est de chercher du boulot. Hein.
Et par rapport aux enfants, tu trouves qu'il a eu une perte d'autorité, de légitimité?
Non, 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 je crois pas. Par contre, une chose est certaine, il est beaucoup moins patient. Je pense pas que l'image que les enfants aient de lui soit ternie,
Mais lui, il est vachement plus soupolé, plus moins patient.
J'ai toujours été un mari, un père, un employé loyal et responsable.
Pour votre loyauté, pendant ces 15 ans dans notre maison qui est aussi la vôtre, recevez ce modeste présent utile pour noter à chaque instant vos 1000 petites idées fécondes qui ont tant bénéficié à notre productivité. Dictaphone numérique, chino-japonais, encore mieux que japonais.
6 mois après, j'étais viré, avec 600 autres. Dégraissage avant délocalisation.
Pour vous, Bruno, je ne m'en fais pas. À votre niveau de compétence, vous trouverez un poste, le doigt dans le nez.
J'ai empoché mon chèque de licenciement, 15 mois de salaire. Je me suis cru champion du monde. 2 ans et demi après, je n'avais toujours pas trouvé de travail. J'avais une voiture presque payée, que j'ai toujours. Une maison, avec encore 10 ans de traite. Et une femme que j'aimais, et que j'aime toujours.
Dis-moi, tu pourrais pas mettre une photo un peu plus...
Plus quoi? Plus sexy?
Voilà, à partir de maintenant, j'envoie le CV et la lettre de motivation, et basta.
De toute façon, j'ai jamais su me vendre.
Tu te regardes comme connerie, toi.
Y a rien depuis qu'on a plus le câble.
Le poulet? Papi! Tu veux voir un poulet trop cuit?
Ah, vas-y.
Bon, tu veux que je coupe le poulet et tu veux pas te couper, toi?
Donc, c'est une bouillie de poulet. Mais c'est du poulet breton. Hein. Ah, c'est Pascal qui coupe.
C'est l'homme qui coupe, quoi.
Un petit peu de machisme, ça fait pas de mal.
Pascal, pour vérifier si le couteau est aiguisé, il se passe le couteau sur le doigt.
Ah non, bah, je coupe pas le doigt, mais c'est comme ça qu'on vérifie si un couteau est aiguisé.
De toute façon, il va se couper comme
ça. Il n'y a pas 36 façons, hein.
Il est comment ce regard social, en fait, autour, la manière dont les autres vous perçoivent?
Il est très contradictoire. Il est tout à fait typique de deux sondages récents, là, qui, ce dont les Français ont le plus peur, ceux qui sont en activité, puisque les autres n'ont plus peur, c'est le chômage. Mais en même temps, un sondage récent, qui a peut-être été un peu pipé, mais enfin, ça, c'est encore autre chose, dit... la majorité du public va dans le sens d'être plus ferme vis-à-vis des sans-emploi, du chômage, c'est-à-dire de réduire les indemnités. Donc il y a une contradiction totale. On a peur du chômage, mais en même temps, manifestement, ce sont des fainéants, des gens qui ne recherchent pas. Au niveau de la recherche d'emploi, c'est pareil. Au bout de passer les 3 mois, 4 mois, 1 an, 6 mois, c'est qu'il ne fait pas le nécessaire. C'est que ça lui suffit, les indemnités lui suffisent quelque part. Et donc il y a suspicion de manque d'énergie.
On vous a déjà dit ça clairement, quelqu'un.
Non, ça se dit pas ces choses-là. Comme on dit, ça ne se dit pas, mais ça se ressent.
Et on sent que nos amis nous appellent de moins en moins. Non pas qu'ils soient méchants, hein, mais juste ils sont très mal à l'aise et ils savent plus quoi dire. Sauf ce qu'ont dit nos copains ce matin, qui sont adorables. Ils ont eu l'intelligence de cœur de dire on ne sait pas quoi vous dire. Mais voilà. Mais ils ont au moins dit on ne sait pas quoi vous dire. Les autres, ils n'appellent plus et ils savent pas quoi dire. Mais je veux dire, c'est simple de dire, allez, est-ce que vous venez bouffer, ils sont vraiment paumés, donc
ils sont vraiment impuissants, c'est ça?
Impuissants devant telle situation.
C'est un vieux monsieur, tout à fait indigne, et qui...
C'est un autodidacte,
qui me dit, j'ai lu votre livre... Et je trouve ça scandaleux. Je dis, mais vous auriez fait quoi à ma place? Et il a répondu, moi j'aurais trouvé du travail. En gros, c'était de notre faute si on en était là. C'était.
Mais il représentait un passé, comme tu disais. Il a vécu au moment des Trente Glorieuses. Hein, et donc il est resté ancré sur des idées, des images, des visions de
lui, il est persuadé que c'est travail. Parce qu'il n'a pas de travail, c'est parce qu'il cherche pas, quoi.
Toute cette qui appartient à notre génération et les générations précédentes qui ont
passer, traverser leur vie professionnelle sans accrocs, sans incidents, sans expérience finalement, quel que soit leur leur rang, sans expérience sociale. Malheureusement, c'est encore très répandu et en plus, souvent, ce sont des gens qui ont un certain pouvoir de décision actuellement. Quelque part, ils sont déconnectés par rapport à la réalité.
Alors, vous avez beaucoup changé votre alimentation ou pas depuis les périodes de chômage?
Faut demander à la maîtresse de maison.
Maîtresse de maison?
Non.
Oui, on fait plus attention au prix. On fait plus...
Mais ça n'a pas changé fondamentalement la nature.
Non, on ne bouffe pas des patates chaudes tous les jours. Hein. Parce qu'en Bretagne, on dit des patates chaudes. Oh, à côté du plat.
Bon, on va passer à table.
Bon, allez, à la soupe.
Votre CV est impressionnant.
Oui, je suis spécialiste en CV.
Vos diplômes, votre carrière, que pensez-vous des étiquettes alimentaires?
Tout produit est perfectible.
Vous avez travaillé 15 ans dans la même société à un poste de haute responsabilité. Qu'est-ce qui vous en a séparé?
Restructuration avant délocalisation, résultat 16% de bonus aux actionnaires et 2 ans et demi de chômage pour moi.
Vous aviez des actions?
Oui, j'ai été obligé de tout vendre pour faire face à mes...
Avec 16% de bonus? Que vous ont appris ces années de chômage, monsieur Davert?
Qu'à court terme, ça peut être structurant, à long terme, ça abîme tout.
Et vous, vous en êtes où?
À mi-chemin.
Les innovations techniques ici sont limitées. Estimez-vous être surqualifié?
Pas du tout. Qui peut le plus, peut le moins.
Pensez-vous qu'une femme puisse réussir à ce poste?
Ce poste requiert certaines qualités. Je ne pense pas qu'une femme en soit totalement dépourvue, mais je ne suis pas qualifié en femme.
Êtes-vous aussi original dans votre travail que dans vos réponses, monsieur Davert?
Je m'efforce de l'être. Vous savez, avant de venir, j'ai lu 2 manuels sur comment réussir son entretien d'embauche qui m'ont dégoûté par leur conformisme. Êtes-vous conformiste, mademoiselle?
Madame Thompson, Iris Thompson, merci d'être venue, monsieur Davert. Nous examinerons votre candidature avec toute l'attention nécessaire.
C'est tout? Vous ne me demandez pas si ce que je suis prêt à faire, ni à quel prix?
Ce sera l'objet d'un second entretien, le cas échéant. Merci d'être venue jusqu'à nous.
Moi, j'ai peur tout le temps, quoi. Alors, c'est ça, les trucs physiques, c'est des angoisses au petit matin, chaque matin, avant que le jour se lève. Tous les matins, je suis en nage, avec des angoisses terribles. Et pourtant, je suis soignée pour... Alors, ça se voit pas, parce que l'humour étant la politesse du désespoir, ça se voit pas forcément. La peur de l'avenir, hein, la peur de pas y arriver, la peur de pas faire face. Et puis on est tout seul, hein, quand même, quelque part. Il faut qu'on trouve les solutions tout seul.
Ils ont osé, elle a osé raconter la honte, le désespoir, raconter la culpabilité aussi du chômage aujourd'hui, chômage des cadres qui gagnent là, évidemment, c'est vrai, dans les années 70, quand c'était les mines ou dans le nord, le textile, la sidérurgie dans l'est qui était frappé, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut moderniser, il faudra redéployer, il faudra recycler. Mais enfin, évidemment, les cadres à l'époque n'étaient pas concernés, bien évidemment. Ils avaient des compétences, ils avaient des diplômes, ils avaient des... Oh, allez, bon, une élite. Allez, il faut bien appeler les choses par leur nom, même si c'est le mot qu'on ne prononce jamais en France, il pensait toujours le prononcer jamais. Et puis, peu à peu, eh bien, on a vu ces dernières années les élites, les cadres concernés par ce chômage, de plus en plus concernés par le chômage. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé à en parler dans la presse magazine, c'est-à-dire la presse lue par les cadres. Auparavant, le chômage des ouvriers, les vulnérables, ben après tout, ils étaient dans leur rôle. Et voilà que les choses ont l'air de... non pas de se retourner, mais de changer.
Non, ça va.
la nôtre. C'est la maison qui offre.
Je conduis.
Faut bien mourir de quelque chose.
C'est un crime ce qui se passe ces temps-ci.
Pardon?
J'ai beaucoup réfléchi, moi, depuis 2 ans. On a que ça à faire, hein, quand on sert des plats du jour. La société vit une situation folle et totalement inédite. En Chine, dans le temps, pour économiser la nourriture, il y avait une peuplade qui abandonnait les nouveau-nés dans la montagne. Les Esquimaux, eux, ils déposaient les vieillards sur des icebergs qui dérivaient, pour les mêmes raisons. Et nous, on prend les plus productifs, au top de leur capacité, et on les bazarde. C'est ça qui est inédit. La société se tient une balle dans le pied.
Vous avez raison.
On a 1 million de grabataires qu'on soigne à grands frais. Si on en laissait partir un petit peu l'été par la chaleur, en automne par le blues, en hiver par le froid et au printemps par l'excitation, eh ben on s'ouvrait des crèmes. Au lieu de ça, c'est nous qu'on balance.
Vous m'en donnez un petit peu fou, vous aussi.
Évidemment. La preuve, c'est qu'on est prêt à tout pour trouver du boulot. Seulement, on peut rien contre le turbo-capitalisme.
Et sérieusement, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Il faudrait... encore un peu de côte. On devrait mettre l'homme. L'humain au centre de tout. Mais bon, j'ai peur que ce soit trop tard.
Tiens, on attend.
Oui, j'arrive. Excusez-moi.
Je pense que c'est quand même une expérience, malgré tout, douloureuse, qui, si elle s'arrête maintenant, ça nous arrangerait, fait qu'on aura totalement changé plein de choses. Et Pascal me disait il n'y a pas très longtemps, il dit, même si je retrouve un emploi, je militerai, et moi aussi. Ça, c'est clair que il faut arrêter le massacre, quoi. Bah, contre le chômage, en parler, parce que ça reste aussi un peu un tabou. Et puis, toujours cette image du chômeur qui fiche rien, qui, en tout cas pour certains chômeurs, oui, ces gens qui ne foutent rien, on les paye à rien faire. Mais Pascal, il a travaillé pendant 27 ans. Donc, je considère que c'est un juste retour des choses, qu'on l'indemnise quand on le prive d'emploi. Enfin, ça me paraît simple.
Ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a une image, on montre toujours l'image du gagnant, quoi. Voilà.
Ah, c'est... oui, dans une société de winners. De winners, de losers et de bouineurs.
C'est quoi le bouineur?
Le bouineur, en Anjou, quelqu'un qui bouine, c'est quelqu'un qui fait rien. Donc, j'avais un collègue qui disait toujours, il y a les winners, les losers et les bouineurs. Alors, le chômeur, il est loser et bouineur, ça fait beaucoup. Pour certaines personnes, en tout cas, quoi.
Vous le racontez assez bien. J'espère aussi avoir réussi à convaincre certains de mes contemporains que le chômage, au lieu d'être la sinécure qu'ils imaginent, est une sorte d'énorme cancrelat, aussi laid que celui de Kafka dans La Métamorphose, qui vous bouffe très lentement, mais très sûrement, qui vous désocialise, qui vous fait perdre confiance en vous, qui vous enlève cette indicible légèreté de l'être.
C'est ça qui me manque le plus, c'est l'indicible légèreté de l'être.
Et Pascal aussi, il a eu à faire des plans sociaux.
Oh oui, il n'a pas aimé. Un de ses anciens collègues lui a dit, mais vous êtes des RH, vous êtes là pour ça, quoi. Mais attends, non. Non, on n'en a jamais vraiment reparlé, mais je sais qu'il n'a pas aimé du tout. Je sais pas, j'étais pas dans sa peau. Moi, je serais incapable de le faire. Hein. Mais peut-être c'est ça la vie, c'est bien comme dans la Bible. Hein. Tu es puni par là où tu as péché, c'est peut-être parce qu'il a fait un plan social qu'on en est là. Je dirais bon vent, parce qu'on est en Bretagne et que le vent porte.
Oui, il n'y a pas grand mot à dire, je crois.
Qu'est-ce qu'ils avaient dit, vos amis, déjà?
On ne sait pas quoi vous dire, mais on le vous dit sincèrement. Mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un de très bien qui attend Pascal au tournant, c'est pas possible autrement.
Ça va arriver, tout, c'est qu'on ne sait pas dans quel temps.
Il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui a besoin de toi.
Sûrement.
C'est pas possible.
Tout ça de le trouver.
Il y a aussi une chose à dire, c'est tenez-nous au courant.
Ah ben ça, il n'y a pas de problème. Aucun problème, surtout si c'est du positif. Mais bon,
ce sera du positif. Ah
ben oui.
C'est notre problème.
Merci à tous, merci à Marianic Terouin Auville et à Pascal Auville, et à leurs 4 enfants, itinéraire d'un cadre jetable. Je rappelle l'éditeur, c'est l'éditeur des éditions Amalthée. C'était un reportage d'Olivia Gesbert. pour les repères et repères des amis de la basse, j'y suis. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La basse, j'y suis. C'est-à-dire que vous allez sur www.radiofrance.fr et puis de là vous allez sur France Inter et là vous trouvez la rubrique La basse, j'y suis et là vous trouvez les villes et les cafés qui sont devenus, qui deviennent les repères de La basse et j'y suis, avec le jour où on se retrouve, avec le nom, le lieu, etc. Voilà. Aujourd'hui, à la technique, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, réalisation Antoine Chao, Yann Chouquet et Raphaël Moutarde, assistante Pascal Le Pascariello. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37 et c'est Christophe Imbert qui s'en occupe. Et le mail de La basse j'y suis, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Il nous reste quelques instants qu'on va passer avec Mano Solo.
Travail, famille, Sarkozy. C'est la compassion pour les nantis. Mais si t'as rien à offrir, prépare-toi à souffrir au rendez-vous. Tu mets des faux fonds d'un trou. Il a des planches et même des clous. D'intérêt à tenir debout. Car si demain tu sers à rien, on va te jeter comme un chien. Pour que tu puisses une fois dans la rue, épouvantail aux mains tendues, effrayer le salarié, fermer ta gueule, pas bouger.
Un soir dans le vent, je rejoindrai les partisans de ceux qui ont de l'amour pour la vie. Un soir d'un instant pour comprendre la force d'être unis.
Y a pas grand monde dans le train, y a pas grand monde sur le chemin, pas beaucoup d'ombre dans le lointain. Les cœurs qui grondent, des outils pleins les mains, on disparu des imageries. C'est trop ringard, toutes ces conneries. Mais j'aime encore y croire. Je me fais juste mon petit grand soir.
Un soir dans le vent, je rejoindrai les partisans de ceux qui ont de l'amour pour la vie. Un soir dans la nuit, il suffira d'un instant pour comprendre la force d'être unis.
On s'était dit une petite chanson légère comme ça pour finir une heure assez pesante de La basse, j'y suis. C'est assez réussi. Je voudrais répéter à nouveau à cette auditrice qui a laissé un message, à cette conseillère de la NPE là au début de l'émission sur le répondeur, si elle veut bien nous rappeler pour nous donner ses coordonnées. On a envie de rentrer en contact avec elle. Et puis demain, on parlera du chiffre du chômage et du nombre de chômeurs, ce qui n'est pas la même chose. Guy Vanctil est en train de plancher et d'en baver pour vous expliquer ça demain. Clairement. Un petit coup de réclame, s'il vous plaît.